La missile a frappé la maison et elle a complètement détruite, complètement brûlée. Quand nous avons vu les images de cette maison, c'est vraiment horrible parce que c'était une maison de bonheur. Ensuite, nous avons compris que c'est bon que nous avons laissé cette maison parce que si nous étions là, il n'y avait pas de chance de garder notre vie.
Bienvenue dans la saison 5 de Brise-Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Le 24 février prochain, le temps vous proposera une édition spéciale marquant 12 mois de guerre en Ukraine. Il y a bientôt un an, la Russie attaquait le pays voisin, entraînant le déplacement de centaines de milliers de personnes. Parmi elles, Natalia, son mari et ses trois enfants, arrivés en Suisse quelques semaines après les premières frappes. Au micro de Brise-Glace, cette semaine, la quadragénaire raconte les réflexes dans la fuite, les sirènes qui paralysent le cerveau, les tentatives d'explication pour calmer les enfants et la solidarité tout au long du chemin vers l'inconnu.
Je m'appelle Natalia Letestanska, je viens d'Ukraine, j'ai 44 ans, j'ai trois filles, la plus petite elle a 3 ans. Ensuite, une autre fille de 9 ans et demi et la plus grande a 16 ans. Donc, nous sommes une famille de 5 personnes et nous sommes ici, nous nous sommes enfuis de la guerre d'Ukraine.
Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de votre vie en Ukraine?
Oui, bien sûr. Je viens de Kiev. La population de Kiev est à peu près 5 millions de gens. C'est une ville très développée. Il y a beaucoup de restaurants très bien, beaucoup de théâtres, beaucoup de clubs, des écoles. Et tous mes amis, ils avaient des formations vraiment très bonnes. Et quand j'étais jeune, j'ai étudié le français et l'anglais, et aussi le droit. Donc, je suis juriste et mon mari est aussi juriste. Et les dernières 10 ans, j'ai travaillé comme Government Affairs, Public Affairs and Regulatory Affairs dans une société américaine pour défendre les intérêts de la société. Donc, j'ai analysé les lois locales, comment on peut les adopter avec les lois européennes. Donc, vraiment, c'était un travail très intéressant. Et j'ai toujours pensé que je devais partir de mon pays parce que nous avons eu vraiment une belle vie. Nous avons habité dans un appartement qu'on a créé avec mon mari comme un nid pour notre famille. Nous avons voulu toujours avoir beaucoup d'enfants, entendre comment ils rient dans notre maison. C'est pourquoi nous avons travaillé beaucoup. On a investi presque tout l'argent pour cet appartement. Et ensuite, mes beaux-parents, ils ont déménagé aussi à près de Kiev. Et on a construit récemment une très belle maison là-bas, ensemble avec la famille de beaux-frères et les parents, afin que nos enfants puissent rencontrer chaque week-end les grands-parents, les cousins, un oncle, une tante. Donc, chaque samedi, nous sommes venus chez grands-parents. Et c'était aussi une très, très belle maison qui est près de forêt. Donc, on a ramassé des champignons. Il y avait aussi un lac près de maison. Donc, on a nagé et nous étions très heureux.
Dans quelle mesure est-ce que vous sentiez monter ces tensions avec la Russie depuis les années précédentes, il y a eu la crise Euromaïdan. Comment est-ce que vous vous sentiez par rapport à tout ce climat géopolitique?
Je pense que la crise a commencé en 2014, quand le président Yanukovych était au pouvoir. Tout le monde expectait que l'Ukraine sera dirigée en direction européenne, comme le président a promis à la population. Mais quand le président Yanukovych est parti en Russie, il est revenu, il a dit les choses tout à fait différentes. Il a dit qu'il faut retourner à la Russie. On ne va pas signer l'association avec l'Union européenne, parce que la Russie, c'est plus important pour l'Ukraine. Alors, comme les gens ont entendu que la politique a changé complètement, ça a bouleversé la population, surtout les jeunes, parce que les gens ne voulaient pas retourner à l'Union soviétique. C'est pourquoi beaucoup de gens sont sortis dans les rues, sur le Maïdan, c'est la place centrale de la ville, et on a protesté. C'était un temps très douloureux pour l'Ukraine parce qu'il y avait beaucoup de plus que 100 gens jeunes qui étaient tués dans les rues. Voilà, mais ça même a provoqué même plus de gens qui sont sortis dans les rues. Donc, je pense que ça a commencé vraiment en 2014 parce que après, quand la Russie elle ne voulait pas tolérer que l'Ukraine et tout le monde voulait aller à la direction européenne, ça a commencé avec la Crimée. Et pour le pays, c'était horrible, mais on n'a pas protégé la Crimée parce que dans nos mémoires, le sujet de la guerre est très, très douloureux parce que dans chaque famille ukrainienne, il y a des grands-parents qui ont souffert de la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, mes deux grands-pères, ils ont été à la guerre, ils étaient blessés et ils sont revenus avec le trauma vraiment psychologique et aussi physique. C'était vraiment la tragédie pour toute la population. C'est pourquoi les gens toujours avaient peur de guerre. Personne ne voulait répéter la douleur qu'on avait dans chaque famille ukrainienne. Et c'est pourquoi je pense qu'on a dit, d'accord, prenez la Crimée, mais il ne faut pas faire la guerre. Donc, c'était l'agression à la Crimée, ensuite à l'ouest du pays, avec Donetsk et Lugansk. Et les premières menaces qui étaient vraiment très douloureuses, c'était déjà au début de 2022, quand on a entendu des avertissements américains qu'on a investigués et on pense que la Russie va attaquer l'Ukraine. Et même déjà au janvier, mon mari m'avait dit « il faut que tu partes avec les enfants dans un autre pays, peut-être Turquie ou quelque part là-bas ». J'ai dit non, parce que je ne veux pas partir toute seule avec les enfants, sans mon mari. J'ai dit non, je pense que ce n'est pas vrai, parce que personne ne voulait croire que la Russie va attaquer l'Ukraine. C'était nos voisins, c'était nos frères et notre famille, ils sont vraiment très connectés avec les familles russes. Par exemple, j'ai beaucoup d'amis, des femmes russes qui sont venues de Russie. Elles sont mariées avec les Ukrainiens. Il y a beaucoup des Ukrainiens qui sont partis à Russie. Par exemple, même mon grand-père, il est russe. Il était né en Ukraine, mais ses parents, ils étaient de Russie. Donc, je sais qu'il est russe. Donc, c'est pourquoi personne ne voulait croire qu'ils vont nous attaquer. Ce n'était pas possible. Mais malheureusement, c'est venu.
Comment est-ce que c'est venu pour vous à titre individuel?
C'était juste une semaine avant la guerre. On a entendu le discours de Poutine. Il a parlé, il me semble, 2-3 heures d'Ukraine. Juste d'Ukraine. Il a parlé des choses horribles. Donc, j'ai pensé qu'il va annoncer la guerre. Mais à la fin, il a dit qu'il va signer les documents. Il va joindre Donetsk et Lugansk à Russie. Et c'était un peu soulagement pour nous, parce qu'on a dit, OK, c'est vraiment comme quelque chose de fou, mais ce n'est pas la guerre. Mais une semaine après, pendant la nuit, je me suis réveillée du bruit d'explosion, de bombardement. Je ne voulais pas croire, mais j'ai réveillé mon mari et j'ai dit « la guerre a commencé ». Elle dit « non, ce n'est pas possible. Peut-être ce sont les feux d'artifice ». C'était à 4h30 au matin, mais ensuite on a compris que ce n'est pas les feux d'artifice, les fenêtres tremblaient. Et j'ai dit « d'accord, il faut prendre nos enfants, il faut partir ». Parce que c'est une grande ville et nous sommes dans un appartement. Il n'y a pas de cave ici. Il n'y a pas d'abri où nous pouvons cacher nos enfants. Et donc, nous avons 3 enfants. Il faut faire quelque chose très vite. C'était bien sûr la panique. Mes mains tremblaient et je ne pouvais pas comprendre que je dois faire les valises, mais que prendre les vêtements chauds. Ce que j'ai pensé, c'est le plus important, et les documents. Il faut partir très vite. Il faut aller chez nos grands-parents. Ils ont une maison, il y a une cave là-bas, donc je pensais qu'on peut nous cacher là. Donc on a pris nos enfants, je n'ai pas osé à leur dire que c'est la guerre qui a commencé. J'ai juste expliqué à mes enfants qu'il faut aller chez grands-parents. Mais bien sûr, ils ont entendu le bruit, les explosions. J'ai dit que... nous ne connaissons pas qu'est-ce qui se passe, mais il faut partir très vite. Bien sûr, c'est pas pour leur faire peur, mais juste pour expliquer qu'il faut agir. Il faut pas dormir, il faut se réveiller et s'habiller et partir. Ensuite, je pensais, ok, peut-être je dois prendre quelques alimentations, des produits, du pain. J'ai ouvert mon frigo et j'ai vu qu'il est plein. Et ça va prendre beaucoup de temps pour le vider. Et j'ai fermé. J'ai dit, d'accord, je laisse tout. Je ne sais pas quand je vais revenir, mais peut-être ça ne va pas durer trop long parce que voir la guerre avec la Russie, avec le pays qui est vraiment si puissant avec les armes, c'est incroyable. Ce n'est pas possible. C'est vraiment fou d'avoir la guerre avec ce monstre comme la Russie. Donc on a pris la voiture et quand nous sommes sortis dans les rues, tout le monde était déjà dans les rues et il y avait beaucoup d'embouteillages. Donc notre voiture ne pouvait pas bouger. Et, il y avait des explosions toujours, il y avait des sirènes et c'était pour la première fois dans ma vie quand j'ai entendu les sirènes. C'est vraiment le sentiment vraiment horrible parce que ça donne tellement de peur que tu ne peux pas réfléchir et penser que de quelque chose d'autre, mais juste les sirènes et il faut cacher nos enfants. Ensuite, on a essayé de prendre les autres rues, de trouver les rues plus ou moins vides. Donc ça nous a pris à peu près, je pense, 6 heures de venir chez nos parents. Normalement, ça prend 40 minutes. C'est 5 kilomètres de notre appartement. Donc normalement, c'est très vite. Mais parce qu'il y avait beaucoup de voitures déjà et tout le monde essayait de laisser Kiev, il y avait beaucoup d'embouteillages. Donc, notre idée était vraiment de venir à la maison et de cacher nos enfants dans un abri, dans la cave. Mais comme nous sommes venus à la maison, on n'a entendu même plus d'explosions et plus de bombardements parce que la maison, elle est située près du village Boutcha. Et il y avait l'aérodrome militaire près de la maison. C'est pourquoi les premiers missiles sont venus aussi à cet aérodrome. Et la Russie a envoyé à peu près, il me semble, 50 ou 60 d'hélicoptères qui allaient à l'aérodrome. Mais ils ont volé très bas. Et c'était le bruit que j'entends jusqu'à ce moment. Parce que c'était toute la journée, les hélicoptères. Et nous avons compris très vite que c'est impossible de nous cacher dans cette cave parce que les bombardements sont vraiment très, très proches. Donc le ciel était rouge de feu. Et la terre tremblait très fortement. Je me rappelle les nuits passées dans les caves et les journées avec nos enfants. Surtout notre fille de 9 ans, elle a beaucoup pleuré. Elle avait peur vraiment parce qu'elle avait demandé chaque minute, « Maman, est-ce qu'on va mourir? Est-ce que nous serons tués ?» Et c'est vraiment très douloureux quand tu comprends que tu es impuissante, que tu n'as pas de possibilités, de force de sauver tes enfants. Quand tu essaies de leur couvrir avec son corps. Et tu comprends que ça ne veut pas aider. Parce que si le missile vient à la maison, donc ce sera tout. Et dans notre maison, il y avait aussi deux familles de nos amis de Kiev, parce que nous avons proposé notre cave. Donc nous étions avec les beaux-grands-parents, avec les deux familles de nos amis, et aussi la famille de beaux-frères. Et au matin, j'ai dit qu'il faut partir un peu plus loin, peut-être à l'ouest, parce que c'était plus ou moins tranquille là-bas. L'ouest, c'est plutôt les frontières avec la Pologne, la Hongrie, donc c'était un peu protégé, parce que les autres frontières, elles étaient avec la Biélorussie, la Russie, et c'était d'où on pouvait expecter les attaques. C'est pourquoi nous avons pensé, ok, nous allons à l'ouest d'Ukraine, il faut attendre là-bas, vivre peut-être quelques jours là-bas, ça va terminer. Mais ça aussi nous a pris beaucoup de temps de venir là-bas, parce qu'il y avait beaucoup de voitures et c'était pas clair si c'est vraiment sécurisé les routes où il faut aller, donc c'était beaucoup de panique des gens, il y avait beaucoup de sirènes pendant la route. Mais on a essayé de trouver le logement là-bas, mais c'était absolument impossible parce que toute l'Ukraine était déjà là. Tous les gens, ils sont partis à l'ouest et tous les hôtels, tous les appartements étaient complètement pleins. Donc on nous a proposé juste dormir à l'école, juste sur le sol, parce qu'il n'y avait pas d'autre place. Et ensuite, à la nuit, nous avons trouvé les gens qui ont proposé une chambre pour dormir dans leur maison. Mais le lendemain, j'ai compris que c'est impossible de rester là parce que nous gênons les familles qui n'ont pas de place pour leur famille. Donc, il faut trouver quelque chose d'autre. Et très vite, j'ai compris qu'il faut partir, il faut passer la frontière et aller dans un autre pays.
Donc c'était la frontière avec la Pologne ?
C'était la frontière avec la Moldavie. Mais aussi à la frontière, il y avait beaucoup, beaucoup de voitures. Il y avait une grande ligne de voitures. Donc ça nous a pris aussi 40 heures de passer la frontière. Donc on a dormi avec les enfants dans la voiture. On a entendu, on a bougé vraiment comme un mètre, une heure. Et avec une petite fille de 2 ans, c'était vraiment très difficile. Elle a beaucoup pleuré, elle ne comprenait pas pourquoi elle ne peut pas sortir, aller manger ou bien... Donc vraiment, c'était très dur, mais on a dit d'accord, au moins nous sommes en sécurité. Parce qu'il n'y avait pas de sirènes sur la frontière, il n'y avait pas de bombardement, on n'a pas entendu des explosions. Donc, au moins, c'était sécurisé. Alors, quand on a passé la frontière et nous sommes venus à la Moldavie, c'était 3 heures de nuit. Et c'était aussi une image extraordinaire parce que beaucoup de gens moldaviens étaient dans les rues. Ils attendaient pour proposer leur aide. Et c'était vraiment si touchant. Tout le monde a pleuré parce que les gens tout à fait inconnus, qui ne dormaient pas, qui étaient dans les rues pour proposer de passer la nuit dans leur maison. Donc nous sommes venus avec une famille, c'était un homme et une femme. Ils ont proposé leur maison, les chambres pour 2 familles. Une autre famille, c'était la famille de mon beau-frère avec 2 enfants. Et nous, avec 3 enfants, ils nous ont donné 2 chambres. On a bien dormi là-bas en sécurité. C'était vraiment un soulagement pour nous. Et ensuite, au matin, quand nous nous sommes réveillés, nous avons vu une femme qui a préparé, cuisiné le petit déjeuner. La table était complètement pleine de belles choses. Donc, elle a vraiment essayé de faire quelque chose de joli et de spécial pour nous. Donc, on a bien mangé, mais on a décidé qu'il faut partir et chercher quelque chose d'autre. Et c'était la frontière qui était très proche de la frontière avec Roumanie. Et à Roumanie, comme à Moldavie, il y avait beaucoup de gens après la frontière qui attendaient les Ukrainiens avec les sacs pleins de fruits, de biscuits, de quelque chose de, comme ça pour les enfants, des vêtements chauds pour les enfants, pour tout le monde. Et on a proposé aussi les chambres, le logement. Donc, et parce que nous n'avons pas eu des plans où aller, on a accepté cette offre. Et c'était un camp d'été des enfants. Et nous avons passé à peu près 10 jours là-bas. Donc on a pensé que nous restons à la Roumanie. Peut-être il ne faut pas partir très loin parce que nous avons voulu être plus proche de mes parents, de notre famille, de notre pays. Mais une nuit, j'ai lu des nouvelles que Russie a attaqué la station nucléaire à Zaporijjia. Donc c'était aussi une nouvelle horrible pour nous parce que vous connaissez que l'Ukraine avait cette expérience horrible avec Tchernobyl. Il y avait beaucoup de gens qui étaient tués de cette radiation et c'est pourquoi quand on a lu ces nouvelles que les Russes ont attaqué la station nucléaire, j'ai dit d'accord, nous sommes très proches parce que s'il y a le fuite de radiation, ça va venir très vite ici à Roumanie et il faudra fuir encore une fois et c'est impossible de fuir très vite parce que s'il y a la radiation, c'est très très vite. Donc c'est impossible de sauver les enfants. Et c'est pourquoi on a décidé d'aller un peu plus loin. J'explique parce que la Suisse, ce n'était pas notre but au commencement. Mais en Suisse, nous avons eu une femme qui était voisine de mon mari en enfance. C'est Natacha, elle habite en Suisse déjà à peu près 10 ans. Elle est mariée ici et elle a appelé, elle a dit « Venez ici, je vais vous aider ». Mais pour nous, bien sûr, venir à la Suisse, le plus cher pays dans le monde peut-être, on a pensé on n'a pas beaucoup d'argent avec nous parce que, comme j'ai expliqué, on a tout investi dans la maison et l'appartement en Ukraine. Donc, c'est fou d'aller à la Suisse, mais elle a dit non, n'ayez pas peur, on va vous aider ici. Donc, on a pensé d'accord, peut-être pour quelques jours, on vient à la Suisse.
Là, c'est à quel moment de l'année?
C'était en mars.
Donc vraiment quelques semaines après les premières attaques.
Oui, oui, oui. Mais mon mari ne voulait pas partir. Au début, je me rappelle, quand nous avons été à la frontière, on nous a expliqué à la frontière qu'il peut partir parce que nous avons 3 enfants. Donc les familles avec 3 enfants et plus, les hommes, ils peuvent partir. Mais mon mari ne voulait pas partir. À la frontière, il lui a expliqué il faut peut-être que vous allez, il faut trouver le logement, il faut trouver une solution et ensuite, si tu veux, tu peux revenir. Donc, mon mari, il voulait toujours revenir, surtout quand les soldats russes vivaient dans notre maison. Je n'ai pas raconté cette histoire. En mars, nous avons reçu des nouvelles que dans la maison de mes beaux-parents, où nous avons passé les premières journées dans la cave. Cette maison était occupée par les soldats russes. Donc, il y avait à peu près 40 soldats qui ont vécu dans la maison de nos beaux-parents, de notre maison de famille. Je ne sais pas, peut-être ils ont passé 2-3 semaines là-bas. C'est quand les soldats russes étaient autour de Kiev. Et ensuite, quand les soldats ukrainiens sont venus et on a commencé à combattre avec eux, le missile a frappé la maison et elle a complètement détruite, complètement brûlée. Quand nous avons vu les images de cette maison, c'est vraiment horrible parce que c'était une maison de bonheur. Ensuite, nous avons compris que c'est bon que nous avons laissé cette maison parce que si nous étions là, il n'y avait pas de chance d'être, de garder notre vie. Parce que ensuite, comme mes beaux-parents sont revenus à cette maison pour chercher quelque chose, pour trouver peut-être quelque chose qui est resté, la cave était brûlée complètement. Donc s'il y avait quelqu'un, il n'y avait pas de chance de garder la vie dans cette cave. Après, quand les soldats russes sont partis, il y avait beaucoup de gens tués autour de notre maison. Quand j'ai vu les photos, c'était horrible. Je ne sais pas si c'était les Russes ou les Ukrainiens, mais il y avait beaucoup de soldats tués. Et même maintenant, il y a des tanks russes près de cette maison. Donc, je ne sais pas s'ils sont partis ou bien ils étaient tous tués. Je ne sais pas, mais je ne veux pas savoir, bien sûr, parce qu'ils sont venus pour nous tuer. Excusez-moi. Donc, alors, et mes parents, mes beaux-parents, ils sont partis. Ils avaient de la chance de partir aussi de cette maison, mais ils ne voulaient pas. Je me rappelle aussi cette situation quand ma belle-mère, elle ne voulait pas partir. Elle a dit, non, je ne vais pas laisser cette maison. Je vais rester ici. Et mon mari, il était très strict. Il a dit, il faut partir parce que c'est impossible de rester ici. Elle était un peu fâchée, la belle-mère. Mais maintenant, elle comprend que c'est, bien sûr, que c'est très, très bon qu'on est parti juste cette journée. Parce qu'après, vous connaissez qu'est-ce que c'était à Boutcha. Et ensuite, j'avais aussi des nouvelles d'un de nos amis qui est resté à Boutcha. Elle n'est pas partie quand nous sommes partis. Et le lendemain, c'était déjà impossible de partir parce que les soldats russes étaient déjà là. Donc, ils ont passé beaucoup de nuits dans la cave, sans alimentation, sans chauffage, sans rien, avec les enfants. Et elle m'avait écrit des choses horribles, vraiment. Elle avait peur. À chaque minute, elle a entendu des explosions, des soldats russes. Et ensuite, elle a dit qu'ils ont essayé de fuir parce qu'il n'y avait pas d'alimentation, il n'y avait rien. Elle a dit que tu ne peux pas imaginer comment c'est difficile quand les enfants te demandent qu'ils ont faim, ils demandent du pain et tu ne peux donner rien parce qu'il n'y a pas de pain, il n'y a rien. C'est horrible. Elle dit que quand tu as faim, c'est ok, tu peux le supporter, mais quand les enfants ont faim et il n'y a rien, c'est horrible. Donc, elle a dit qu'on a décidé avec les voisins de fuir avec la voiture. Mais quand ils ont commencé à conduire, leur voisin qui était avant eux, il avait tout tué. Parce que les Russes, ils ont pensé que ce sont les gens qui veulent fuir, donc tout le monde était tué avec les enfants dans la voiture. C'est pourquoi nos amis, ils sont revenus dans la cave. Et ensuite, les soldats russes leur ont donné juste du riz, mais pas cuit. Du riz cru. Donc, je ne sais pas comment c'était possible pour les enfants manger du riz comme ça. Ensuite, ils ont pu fuir pendant la nuit dans un autre village, mais c'était impossible de laisser cette région. C'était déjà impossible. Donc, nous, quand on est partis, ça nous a pris aussi beaucoup de temps de venir à la Suisse parce que c'est 2000 kilomètres. Mais selon notre route, on a rencontré vraiment beaucoup de gens qui nous ont aidés. Comme par exemple en Slovénie, c'était un ami de mon mari. On a fait des études ensemble à Kiev. Et la Slovénie, c'était le pays de sa femme. Donc sa femme a appelé sa famille, sa mère. Elle a dit qu'il y a les amis d'Ukraine qui conduisent à la Suisse, mais ils doivent s'arrêter quelque part pour passer la nuit avec les enfants. Donc, ils nous ont rencontrés dans leur maison. Ils ont préparé des choses pour nous. On a parlé, on a soulagé un peu. C'était les gens absolument inconnus. Ensuite, on est allé, on s'est arrêté aussi en Italie et nous nous sommes arrêtés dans un hôtel italien qui aussi a refusé de prendre de l'argent pour une nuit. Oui. Il a dit non, nous comprenons, nous sommes avec l'Ukraine. Donc, ils ont refusé de prendre de l'argent. C'était vraiment incroyable. Et c'était très touchant qu'il y a beaucoup de gens avec un bon cœur comme ça. Ensuite, comme nous sommes venus en Suisse, au début, nous sommes venus à Genève. C'était une famille américaine. C'était Lella et Sam. Ils nous ont proposé leur chambre pour deux familles. Donc, nous étions neuf personnes avec deux familles. Et ils ont donné leur chambre à nous. Et eux-mêmes, ils ont dormi dans leur cave. Donc, on a passé 3 jours avec cette famille américaine. Ensuite, il y avait un ami de nos amis. Il est allemand, Eckhart, qui nous a proposé son appartement. Donc, il est parti pour les vacances, pour 2 semaines. Donc, il a laissé son appartement à nous. Il était inconnu pour nous. Il a laissé tout son appartement. Il a dit, vous pouvez vous installer. Vous êtes avec les enfants, donc vous avez besoin d'aide. Et je vais retourner un peu plus tard. Et ensuite, on a pensé que faire. Parce que trouver le logement à Suisse, c'est très difficile, surtout pour les étrangers. Même si nous avions de l'argent, c'est très difficile à louer un appartement parce qu'il faut avoir le dossier, tout ça. Donc, nous avons pensé que faire. Et mon mari, il a contacté, il y avait un club de voitures de Fender. Et il a une voiture un peu étrange peut-être, mais c'est une voiture qui nous a sauvés de la guerre. Et il y avait un club de gens ici qui
ont la même.
Oui, et donc il a demandé si peut-être quelqu'un connaît où on peut louer le logement, quelque chose comme ça. Et ensuite, nous avons été contactés par un homme, Simon. Merci à lui, il a proposé son chalet dans le canton de Valais. Elle nous a dit que ne vous inquiétez pas, j'ai un chalet de ma mère, je veux partir chez ma copine, donc ne vous inquiétez pas, installez-vous. C'était dans les montagnes, à Marécotte. C'était très calme et c'était comme après la guerre, vraiment un soulagement d'être dans une place calme comme ça. Mais on ne voulait pas sortir de cette maison. Bien sûr, c'était très joli, très, très beau, les montagnes, mais ça ne nous a fait pas plaisir parce que toutes nos pensées étaient avec l'Ukraine, avec cette guerre, avec notre famille. Donc, il n'y avait pas vraiment de désir de sortir, de voir quelque chose. Donc, on a passé juste tous les jours dans la maison. Et ensuite, on nous a contacté de la mairie de ce village. On nous a expliqué qu'il faut que vos enfants commencent à l'école. Mais pour nous, c'était impossible parce qu'on n'avait pas de plan que faire. Nous ne pouvons pas rester dans la maison de quelqu'un, occuper la maison comme ça. C'est impossible. Donc, il faut trouver une solution, il faut trouver quelque chose. Alors, on a commencé le processus de permis S. Oui, d'obtenir le permis S. Et on a pensé que peut-être nous pourrions recevoir un logement social. Peut-être il y aura quelques aides à ce sujet. Mais comme j'ai contacté les VAMS, c'est un établissement d'immigration vaudois, on m'avait expliqué que si vous habitez chez quelqu'un, on ne va pas trouver quelque chose pour vous. Donc il faut aller au camp des immigrants. C'était un camp à Beaulieu, à Lausanne. Et il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Et il y avait juste les lits, et les hommes, les femmes, les enfants, tous ensemble. Et chacun avait son douleur. Et quand j'expliquais que j'ai 3 enfants, donc combien de jours il faut passer dans le camp comme ça, on m'a dit que personne ne le connaît parce que c'est très difficile avec le logement en Suisse. Et j'ai demandé, d'accord, est-ce que je peux vivre toute seule? Parce qu'il y a un homme qui a proposé sa maison. Donc mes enfants, ils peuvent vivre là quelques jours. Mais est-ce que c'est possible si moi, juste seule, qui va vivre dans le camp? M'a dit que non, non, il faut obligatoirement vivre dans le camp. C'était comme ça, c'était les règles, personne ne pouvait l'expliquer. Par exemple, j'ai entendu beaucoup d'histoires que les Suisses, ils voulaient proposer leur aide, mais c'était un peu difficile à cause des raisons administratives, parce que c'était les ventes qui avaient à venir et vérifier les conditions, les chambres. Par exemple, notre ami dans les montagnes, Simon, il a dit qu'il voulait proposer sa maison, mais ce n'était pas accepté parce qu'il n'y avait pas de porte dans la chambre. Mais c'était un chalet, donc il y avait 3 étages, mais il n'y avait pas de porte et c'est une raison qu'on a refusé d'accepter les gens, les Ukrainiens. C'était un peu fou, je pense, parce que okay, la porte, c'est pas la chose principale pour les gens dans la situation comme ça. Mais ok, c'était les règles comme ça. Donc on a passé quelques jours dans le camp et ensuite on nous a proposé un foyer dans les montagnes. C'était une jolie place, mais c'était juste une chambre avec 8 lits. Il n'y avait pas de table, quelque chose comme ça. Donc j'ai aussi pensé, comment c'est possible de vivre comme ça avec les enfants? Il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien. Oh, mais ok, que faire? C'est la vie, nous sommes en sécurité. Nous sommes reconnaissants, d'accord? J'ai dit, il faut continuer à vivre, c'est la vie, ok. Mais ensuite, c'était très étonnant et nous avons été contactés par notre amie qui nous a appelés. Elle a dit que je vais vous supporter, je vais trouver une solution. Donc, elle a rencontré une famille, Suzanne et Yves, et son fils Thierry. C'est une famille incroyable. Ils ont proposé leur maison à Bougé-Bosset, pas loin de Genève. Et comme nous sommes venus, nous avons rencontré une famille merveilleuse, vraiment fantastique. Je me suis sentie vraiment comme chez moi parce que Suzanne, elle a préparé toutes petites choses, tous les petits détails qu'on pouvait remarquer. Par exemple, elle a mis les fleurs, les statuettes, les vases. Et ensuite, j'ai appris que c'était une maison qu'il voulait reconstruire, qu'il avait les projets de rénovation où personne ne vivait depuis 5 ans, peut-être plus. Donc, je peux imaginer que c'était un état très mauvais. Donc, c'était vraiment incroyable qu'ils ont décidé de vraiment créer cette maison très jolie, juste pour les Ukrainiens, pour nous. Donc, quand nous sommes venus, il y avait déjà 2 familles, 2 femmes avec 3 enfants. C'était à la fin d'avril, mais ça a coïncidé avec le commencement de mon travail à Genève. J'ai commencé à travailler le 1er mai.
Ça a été très rapide.
Très rapide, oui, parce que j'ai entendu d'une vacance dans la World Heart Federation. C'est une fédération qui s'occupe des problèmes cardiovasculaires. Et c'est une fédération mondiale qui joint les professeurs, les sciences dans le monde pour améliorer la situation avec les maladies cardiovasculaires. Et je suis très reconnaissant à Jean-Luc, qui est directeur de cette fédération, qui a cru en moi. Je compris qu'il voulait aussi aider aux Ukrainiens. C'est une fédération très international. Il y a beaucoup de gens qui sont des autres pays. Donc, c'est une ambiance vraiment pour moi très agréable parce que je ne suis pas comme une étrangère toute seule là-bas. Et ça m'a aidée de vraiment changer mes pensées parce que de lire les nouvelles chaque minute et penser de l'Ukraine, de la guerre, on peut devenir fou. Parce que 90% de nos amis, ils sont en Ukraine. Parce que les hommes, ils ne veulent pas quitter l'Ukraine et les femmes, ils ne veulent pas quitter son mari. Et chaque matin, j'écris à mes parents, à mes amis, et je demande s'ils sont vivants, si tout est bien.
Je me demandais si vous aviez des amis russes et quelle relation vous avez avec eux.
Il y a une femme russe qu'on a rencontrée à Thaïlande pendant notre vacances. Elle m'avait écrit « J'ai honte que je suis russe. Excusez-nous. » C'était très important pour moi de recevoir un message comme ça parce que j'ai compris qu'elle ne partage pas la politique de ce pays. Et ensuite, elle est partie de Russie. Maintenant, elle vit en Turquie. Et elle ne veut pas revenir parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas s'associer avec ce pays. Un de mes autres amis, elle m'avait écrit la même chose. Mais ensuite, elle n'a plus écrit. Je comprends que peut-être c'est aussi difficile pour eux. Mais de mes autres amis, ce que j'entends, c'est que vraiment les Russes, ils ne croient pas que cette guerre a été commencée par la Russie juste pour attaquer, juste pour reprendre le territoire. On dit les choses tout à fait de folie, vraiment, dans la presse en Russie. Par exemple, quand mes beaux-parents, ils sont venus pour chercher quelque chose dans les abris de la maison, ils ont trouvé les journaux russes. Et ils ont lu que ce sont les Ukrainiens qui se bombardent eux-mêmes. Donc, c'était les soldats russes qui étaient dans notre maison. Ils ont lu les journaux comme ça, où ils disent que ce n'est pas eux, ce n'est pas les Russes qui ont attaqué, mais ce sont les Ukrainiens qui s'attaquent eux-mêmes, juste pour dire à tout le monde que c'est la Russie. Donc, c'est vraiment absolument fou. Et je peux imaginer que les gens qui vivent en Russie et qui lisent les nouvelles comme ça, ils pensent que oui, c'est la vérité. Je peux peut-être comprendre un travailleur qui a beaucoup travaillé dans une usine, par exemple, et ensuite il est revenu au soir, il a faim, il veut manger, il allume le TV et ensuite il entend des folies comme ça. Peut-être qu'il n'y a pas de choix parce qu'il ne connaît l'anglais, il n'a pas de choix. Mais les autres, les jeunes surtout, qui parlent anglais, ils peuvent lire une autre information, pas juste l'information de Russie, cette propagande. Oui. Ils peuvent lire les nouvelles des autres pays, les nouvelles internationales. Ils ont le choix, mais il me semble qu'ils ne veulent pas. C'est très confortable de vivre avec une information comme ça. Ils disent que l'Ukraine, ça n'existe pas. L'Ukraine, c'est Russie, non. Kiev existait beaucoup plus avant la Russie, beaucoup plus avant comme Moscou. Bien sûr, le principal, c'est que la guerre termine. Mais il y avait beaucoup de gens qui ont été tués déjà. Parce que les gens ont combattu. Ils voulaient que l'Ukraine est indépendante parce que nous ne sommes pas russes, non, nous sommes ukrainiennes. Donc je ne veux pas même entendre de ce pays pour le moment parce que tellement de douleurs que chaque famille ukrainienne a eu de ce pays, c'est vraiment horrible.
Aujourd'hui, à quoi ressemble votre quotidien ?
Nous n'avons pas beaucoup de plans vraiment fixés parce que c'est difficile de planifier quelque chose pour le moment de notre vie comme ça. Donc, je suis très reconnaissante que j'ai le travail. Je peux gagner de l'argent moi-même. Je ne reçois pas de l'aide sociale. Nous sommes responsables pour nous-mêmes. Et c'est juste grâce aux gens avec un grand bon cœur que nous pouvons vivre. Et jusqu'à la fin du printemps, peut-être, ils ont dit qu'ils veulent que nos enfants terminent l'école. Parce que c'est aussi un grand stress aussi pour les enfants de changer d'école. Et surtout avec la langue étrangère, c'est pas facile, bien sûr. Et ils ont commencé à parler déjà. Donc j'espère que les enfants peuvent continuer leur éducation ici. Et ensuite, on verra. On vit le jour d'aujourd'hui.
Comment est-ce que vous vivez ce statut nouveau de, entre guillemets, réfugié?
Pour nous, c'est plus ou moins normal parce que les gens sont plutôt agréables, amicables avec nous. Mais quand il y a beaucoup de réfugiés comme ça, j'ai remarqué que les gens deviennent fatigués un peu. Parce que c'est pas agréable de parler de la guerre, des gens qui sont tués, qui souffrent. Et ils évitent de parler. Mais bien sûr, je voudrais juste remarquer que ce sont les gens qui vivent la vie comme ça, chaque jour et chaque nuit, ils se réveillent et ils entendent la sirène. Mais quand je parle avec nos amis de Kiev, ils disent que presque personne ne fait pas de sirène maintenant. Parce que c'est impossible de fuir et de courir chaque heure, chaque jour, chaque nuit. Surtout d'éveiller les enfants et aller dans les caves froides. Donc ils restent à la maison et ils juste... pense que ça va passer. C'est pas normal de s'adapter à cette situation avec des sirènes, avec des bombardements. C'est pas normal. Mais les gens sont forcés de vivre cette vie. Ils n'ont pas d'autre choix. Ouais.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous aident à vous ressourcer après tout ce que vous avez traversé?
Les nouveaux amis que nous avons rencontrés ici, les gens qui nous ont supportés donnent de l'espoir qu'il y a beaucoup plus de bonté dans le monde que du mal. Ça donne de l'espoir que notre monde va survivre dans la paix et que la paix va venir et toute cette folie va terminer. Et je voudrais dire que chaque Ukrainien qui est en Suisse, il est très reconnaissant. Nous apprécions chaque support. Et je suis sûre que dans la vie, tout est comme le boomerang, ça va retourner. Donc toute la bonté va retourner et le mal aussi va retourner. Je me rappelle qu'en Ukraine, j'essayais toujours à aider quelqu'un. Je ne pouvais pas imaginer que je peux être dans la situation quand quelqu'un va m'aider. Mais cette situation est venue. Et je suis sûre que les gens qui aident, ça va leur retourner de bonnes choses dans la vie.
Vous avez des nouvelles de votre appartement à Kiev? Vous savez comment ça se passe à Kiev?
Oui, pour le moment, c'est tout bon avec l'appartement. Il n'est pas détruit comme la maison. Mais notre appartement se trouve près du ministère de Défense, donc près de base militaire à Kiev. Donc bien sûr, c'est un endroit très dangereux. C'est pourquoi je ne peux pas imaginer quand nous pouvons revenir pour voir notre appartement. Mais il y a beaucoup de voisins avec qui nous parlons presque chaque jour. Et nous connaissons que c'est comme le jeu pour les Russes. Donc on bombarde les stations électriques. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage. Très souvent, il n'y a pas même d'eau dans les appartements. Et ensuite, les Ukrainiens commencent à réparer. Et donc, quand ils ont réparé, deux jours après, les Russes ont bombardé. Mais, ouais, c'est... notre appartement, c'est pas détruit complètement pour le moment. Et j'espère, bien sûr, qu'un jour, nous pourrons revenir dans notre appartement, dans notre nid. Et... je voudrais inviter tous les gens que j'ai rencontrés ici pour montrer vraiment notre très beau pays avec la belle nature. Et je voudrais aussi répondre à la bonté dans notre pays. J'espère que ce jour va venir. Bien sûr, c'est pas facile et ça va prendre même beaucoup de temps après la guerre pour faire tous les endroits sécurisés. Mais j'espère que ça va venir très vite. J'espère.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la 5e saison de Brise Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours.